et nous revoilà pour une émission collective du projet Saint-Marcomde. Saint-Marcomde, c'est la possibilité pour tous les jeunes qui le désirent de s'exprimer en toute liberté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Saint-Marcomde.
Bonjour à tous.
Faut rêver.
Bonjour à toutes.
Faut toujours rêver.
Mais en fait, on vit dans un monde où si t'as pas d'argent, t'as rien.
Cœur paillette.
Après, quand tu rêves, peut-être tu réaliseras tes rêves.
Merci à vous.
Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur les ondes de Saint-Marcomde, le projet radiophonique de Saint-Marcomde. Aujourd'hui, nous sommes avec une classe de 6e de l'Institut Saint-Joseph et je suis en co-animation avec Joséphine pour une heure d'émission collective. J'assurerai la première partie de l'animation, donc c'est Céline, et nous allons faire un petit tour de table juste avant de commencer. Nous avons à notre droite...
Taïf.
Salut.
Karim.
Salut Karim.
Day.
Salut Day.
Abdul Jazoul.
Salut Abdul Jazoul.
Ayoub.
Ayoub, salut.
Alex.
Hello.
François.
Hello.
Mariam.
Bienvenue.
La Walida.
Salut.
Jackson.
Salut.
Fatou.
Salut Fatou. Et Joséphine, bonjour à tous. Alors, du coup, le thème de l'émission que vous avez choisi, c'est, ça tourne autour de la question de l'identité. Et donc, on s'était dit que ça pouvait être défini à la fois comme un ensemble de caractéristiques, d'expériences et d'appartenances qui font une personne ce qu'elle est, et que c'est à la fois un concept individuel et à la fois social. Comment suis-je perçu par les autres ? Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de l'identité, ce que ça vous évoque ?
Pour moi, l'identité, c'est pas seulement l'origine, donc d'où vous venez, mais également ce qui vous a défini tout au long de votre vie, donc oui, les expériences, vos proches.
Moi, je trouve qu'en fait, dans la société, bah, en fait, je suis pas trop d'accord avec elle, parce qu'en fait, pour moi, l'identité, c'est plus une étiquette qu'on nous colle dans la société afin de nous retrouver. C'est comme ça que je la perçois, honnêtement.
Moi, je suis pas d'accord.
Vas-y, Fatou, si tu veux prendre le micro, vas-y.
C'est pas une étiquette qu'on nous colle. Enfin, il y a l'identité sociétale, si on peut dire ça comme ça, l'étiquette qu'on nous colle, et il y a ton identité à toi, que toi-même tu définis.
Ça, c'est deux choses à part.
Ben oui, mais tout dépend de celui que tu parles.
Donc, il y a l'identité à partir du « je » et de l'identité à partir de comment la société nous perçoit, quoi.
Oui.
Si vous deviez résumer en un mot ce qui vous semble le plus important, vous, dans votre... Dans votre identité, ça serait quoi ?
Les valeurs.
Les valeurs ?
Pour...
Le vécu.
Les origines, l'histoire.
L'éducation.
Les fréquentations.
Et est-ce que vous trouvez que c'est un sujet qui est... Enfin là, vous êtes dans une période d'adolescence, de jeunes adultes. Est-ce que c'est un sujet duquel vous pouvez souvent être... Vous pouvez l'aborder régulièrement entre vous, avec vos profs ou avec les adultes qui vous entourent ?
Personnellement, je ne trouve pas, parce que c'est un sujet assez personnel et l'identité, ça se trouve un peu soi-même. Donc, en parler avec les autres, ça mettrait, en tout cas moi, ça me mettrait mal à l'aise.
Mais même entre vous, vous n'en parlez pas ? Enfin, quand tu dis c'est un peu personnel, c'est un peu une quête. Est-ce qu'entre vous, vous en discutez pas ?
Non.
Non. Ok. Ce que je vous propose, c'est de faire la première pause musicale.
Artiste aigri, en perte de vitesse,
avide de gloire, de reconnaissance. Il m'a fait peur, mon adolescence. D'après mon père, je vendrai mon huc. Je ferai la pute dans le coin d'une rue. Maman était là et le grand frère aussi. Tout le monde était là, mais personne n'a rien dit. De maison de disques en maison close. Toujours les mêmes parties de fesses. Mama Africa qui est hyperisée. Je bouge mon boulot pour enfuir leur caisse. Ah, j'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille. Ah, j'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille. Ah, j'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille. Ah, j'ai plus rien à prouver à part faire de l'oseille. Ainsi va ma vie, des liasses de regrets. Vivre à crédit pour éponger mes dettes. Serrer les dents pour que tout ça s'arrête. Je me voyais déjà en haut de la fiche. La réalité me rattrape au réveil. La réalité me chuchote au réveil. Au petit matin, j'ai quitté le nid. Pris mon envol petit à petit. Je suis tombée 100 fois, j'ai su me relever. Devant le miroir, j'ai su me retrouver.
Et nous revoici sur les ondes de Saint-Martonde avec une classe de 6e de l'Institut Saint-Joseph. Donc nous étions sur la thématique de l'identité. Et donc il y avait une question qu'on voulait vous poser. C'était, est-ce que c'est important pour vous d'avoir une identité ?
Bah oui, c'est important d'avoir une identité. Parce que si t'as pas d'identité, t'as pas de racines. Et quand t'es perdu, bah tu sais plus où aller.
Moi j'ai aussi le fait que si t'as pas d'identité, ben en fait t'es pas perçu aussi par la société. Et du coup, si t'es pas perçu par la société, ben tu peux pas avoir de travail entre guillemets, avoir d'amis, avoir de relations sociales.
Pour moi, ne pas avoir d'identité, pour le dire en langage des jeunes, c'est comme si t'étais un PNJ. C'est comme si, pour moi, c'est il y a les personnes normales et les PNJ. Et si t'as pas d'identité, tu fais partie de la case des PNJ.
Et juste pour nos auditeurs, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est les PNJ, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ?
Un PNJ, en fait, c'est un personnage non jouable dans les jeux vidéo, du coup, qui est juste contrôlé par l'ordinateur, qui a des phrases de base qui sont pré-enregistrées, en fait, tout est prédit à d'avance.
Bref, il n'a pas d'identité, quoi.
Et est-ce qu'il y a des moments où on cherche son identité ?
Pour moi, on la cherche quasi tout le temps. Par exemple, dans l'adolescence, notre enfance, que ce soit avec les amis, nos parents, la famille, dans les relations sociales, que ce soit au travail, on est tout le temps à la recherche de notre identité, entre guillemets.
Après, c'est compliqué de trouver, de tout le temps être à la recherche de son identité, comme elle change tout le temps. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais entre l'année dernière et maintenant, j'ai changé et mon identité aussi.
C'est pas compliqué de la chercher. Enfin, toi, tu veux dire que c'est compliqué de la trouver. Mais chercher, ça, tu vois, puisque t'as dit.
Et du coup, bah, ça rejoint à l'autre question. Du coup, donc c'est pas vraiment... Pour vous, elle se construit au fil des expériences ou est-ce que vous nous êtes donné à un moment donné ?
J'irais pas donné, mais genre, elle nous est déposée sur un plateau et si on veut la prendre, on la prend. Si elle veut... Si on veut pas de ça, on la prend pas.
Et qu'est-ce qui nous est déposé sur un plateau dans l'identité ?
Des caractéristiques, que ce soit, je sais pas moi, être joyeux, des choses pareilles, vous voyez ce que je veux dire ?
Genre ton tempérament,
ouais.
Ton caractère.
Exactement.
Moi au contraire, je suis pas du tout d'accord d'un point de vue où, d'après moi, l'identité, elle nous est créée depuis notre enfance avec l'éducation qu'on a eue. Mais l'éducation qu'on a eue, c'est... Même pas l'identité de nos parents, c'est eux aussi, ils l'ont eu par rapport à leur éducation. Mais pour moi, c'est chaque interaction sociale qu'on a ou quoi qu'on fasse dans la vie qui fait qu'on se crée une identité. Donc, sur toutes les questions d'avant où là, vous étiez pour le fait que on peut pas vivre sans identité, entre guillemets. Moi je suis pas du tout d'accord parce que pour moi l'identité c'est un truc de la société et donc si la société ne s'inspire enfin se base plus sur une identité, chacun aurait plus ce souci là de se concentrer sur son identité, mais juste d'être une personne et pas spécialement la définir.
Et est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir une identité ou plusieurs identités ?
Plusieurs. Par exemple, quand je parle avec Alex, je me comporte comme si je parlais à un pote proche, alors que si je parlais à mes parents, c'est pas du tout pareil en fait. Chaque interaction est différente en fonction de la personne, de son statut et tout ça.
Moi, je dirais pas qu'on ait plusieurs identités, mais plutôt qu'on montre certains aspects de cette identité. C'est-à-dire que, comme il a pu dire François, avec ses parents, il va pas parler de cette manière, comme avec Alex. Bah, pour moi, c'est pas une autre identité à proprement parler, mais c'est juste un autre aspect de son identité.
Je rejoins Ayoub sur ce qu'il a dit. Enfin, une identité, on n'a qu'une. Mais en fonction de l'endroit, de la situation, ou de la personne, enfin, je dirais pas qu'on change d'identité, on change juste de personnalité et de comportement. Justement, la personnalité fait partie de notre identité. Et des personnalités, on peut en avoir plusieurs. En fonction de. Voilà.
Du coup, est-ce que vous utilisez chaque fois les mêmes normes ?
Évidemment, non. Quand on est à l'école, quand on parle avec notre prof. On va pas être la même manière qu'on parle avec notre patron ou nos parents, ça c'est logique. Il y a des normes à suivre, des valeurs aussi. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie.
Et est-ce que parfois on a ces identités, ces normes, ces personnalités ? Est-ce qu'il y a des moments où est-ce qu'elles s'entrechoquent ? Elles se disputent ? Et si ça arrive, comment on fait ?
Bah, dans ce cas-là, c'est en fonction de tes valeurs. Je sais pas comment expliquer, mais imaginons vous êtes dans une situation où vous êtes à l'école, mais il y a vos parents qui viennent et votre comportement à l'école il est un peu turbulent, vous êtes un cancre. Alors que quand vous êtes devant vos parents, bah vous faites l'élève modèle, l'élève gentil et tout, et du coup quand vous entrechoquez un peu ces deux mondes-là très différents, et ben, ce sera en fonction de ce qui vous tient le plus à cœur, j'ai envie de dire.
Des délires qu'on a différemment avec chaque groupe de potes. Par exemple, si avec un groupe de potes, j'ai un délire qui est différent. S'il me plaît, je vais l'instaurer même dans l'autre groupe de potes. Même si les premières fois, ils peuvent ne pas comprendre, je vais continuer. Forcer.
Ah oui, donc toi, ta manière, c'est de forcer le trait, ça passe quoi.
Après, si je vois que c'est pas accepté du tout, non. Mais si moi, ça me fait plaisir, je vais continuer.
Tu vas tenter, quoi.
Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Enfin, on n'a pas besoin de l'acceptation de quelqu'un pour faire quelque chose. S'il a envie d'être comme il est, il a dit... C'était quoi ton exemple encore ?
Délire différent avec un autre groupe de potes.
Et voilà. Forcément, s'il a ce délire-là avec l'autre groupe et qu'il aime bien, il n'est pas obligé de changer avec un autre, même s'ils n'aiment pas ça.
Je vais répéter ma question. Du coup, là, ce que j'entendais, c'est que vous la compreniez comme si je parlais à l'extérieur, mais ce que je vous parlais dans les personnalités ou les identités qui s'entrechoquent, c'est ces identités qui sont à l'intérieur de nous. Ce n'est pas forcément avec les autres, quoi. Comment on fait quand c'est à l'intérieur de nous ? Il y a des choses qui justement, entre les normes, les valeurs, nos personnalités, qui s'entrechoquent, quoi. Comment on fait ?
La raison.
La quoi ?
La raison ? Je vais dire la raison. Enfin, ça arrive où... Enfin, on est dans une situation où on se retrouve face à un dilemme. Enfin, moi, forcément, c'est pas mes normes que je vais utiliser ou un truc comme ça. C'est plus...
Tu vas utiliser quoi ?
Le cerveau. Enfin, c'est plus ce que ma tête va me dicter. À ce moment-là, c'est plus question de normes, de valeurs. Non.
Moi, j'avais aussi quelque chose à dire. C'est, il faut aussi définir ses valeurs et ses normes avant de constater que ça s'est entrechoqué. Parce que si on ne le fait pas, on se fera influencer par la société ou par nos proches. Et c'est surtout important de le faire pour nous-mêmes aussi, pour notre vie future et pour ce qu'on va faire dans le futur aussi, notre projet.
Et est-ce que c'est toujours facile d'arriver à définir ses propres valeurs ?
Non, justement, c'est à travers les expériences qu'il faut le faire. C'est à travers le vécu, tout ça. Chacun est différent, donc chacun a un bagage différent. Et il faut savoir le trier, quoi. Mm-hmm.
Et est-ce qu'il y a des valeurs aussi qu'on nous transmet ? Ou est-ce qu'on a aussi des valeurs communes ?
Oui, bien sûr, on a des valeurs transmises.
On a le choix de l'accepter ou non. On peut l'accepter si on y croit ou non. On peut y faire barrière si on l'est pas. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut et de nos choix, en fait.
Et là, j'ai envie de faire un petit tour de table. Vous, des valeurs qui vous tiennent à cœur, ce serait quoi?
Des valeurs, ben, le respect, je dirais. La loyauté aussi. Et toi, Karim?
Le respect des autres.
Je dirais aussi le respect des autres et l'honnêteté.
Ah, moi aussi, j'aurais dit l'honnêteté.
Honnêteté?
La sincérité.
Moi, je dirais l'égalité et le partage.
Je suis d'accord avec lui. L'égalité et l'aide aux autres, c'est important.
Okay. La liberté.
Moi, je dirais l'humanité.
L'humanité.
La moralité.
La moralité. Ok.
Moi, j'avais aussi une valeur à rajouter, c'était le partage. Le partage, ça peut être aussi nos valeurs. On peut les offrir aux autres. Mm-hmm. On peut y consacrer du temps. Parce que chacun a des dons différents. Donc, chacun a des compétences différentes. Et on peut y faire. On peut le partager, quoi. Pour le bien des autres.
Je rajoute également la fraternité. Voilà.
Est-ce que vous trouvez qu'on vit dans une société qui fonctionne avec ces valeurs?
Qu'on vient de citer, là, les valeurs
ouais,
qu'on
ouais,
a citées.
Ouais, ouais, tout ce qu'on vient de citer. Enfin, vous venez de...
Je pense pas que toutes les valeurs qu'on a citées, elles sont utilisées dans la société, mais en tout cas, personnellement, et je pense qu'autour de cette table, je pense qu'il y a beaucoup de valeurs qu'on utilise, même si dans cette société... Parfois, les plus hauts ne vont pas utiliser ce genre de valeurs.
Mais vous voulez continuer avec ces valeurs-là que vous venez de dire, quoi.
Parce qu'on nous les a inculquées. Et du coup, pour nous, elles sont importantes. C'est pour ça qu'on va continuer à les utiliser.
Okay. Il faut surtout les implémenter dans notre vie quotidienne pour pouvoir influencer les autres de manière positive. Et c'est surtout ça l'important. C'est d'être la personne qu'on voudrait être. Enfin, la personne un peu parfaite. Pour pouvoir changer un peu le monde, quoi. Pour vouloir le changer.
Ok, bah du coup, ça rejoint vraiment ce que je voulais vous poser, en fait, comme question. C'est finalement comment notre identité, elle s'articule à la société dans les différents environnements. Mais du coup, ce que tu me dis, c'est toi, c'est en étant toi-même, tu te dis, en fait, si je suis vraiment à fond moi-même, je peux faire changer le monde, quoi.
Bah, faut surtout être différent et pas vouloir se mélanger aux autres. C'est surtout ta personne qui compte, au final. Parce qu'au final, si t'es seul dans une pièce, t'es juste seul avec ta présence. Donc, tu dois changer d'abord ta personne et vouloir changer le monde après.
Et est-ce que, du coup, je vous pose la question dans l'autre sens, est-ce que la société, elle peut vous changer aussi?
Bien sûr, elle nous implémente des pensées négatives, peut-être, parfois. Nous implémente des habitudes aussi. Il faut surtout faire le choix d'accepter ou non. Et de nos jours, c'est surtout négativement que je pense que ça nous influence.
Comme par exemple se lever tous les matins à 8h pour aller au travail, revenir à 5h, 6h de l'après-midi, c'est devenu une norme, entre guillemets. Alors que, personnellement, je trouve pas ça normal de devoir travailler 10 heures par jour, je sais pas vous, mais à mes yeux, ce n'est pas normal de devoir travailler autant en tant qu'humain. Donc, c'est pour ça que pour moi, je ne travaillerai pas autant. Et donc, c'est pour ça que je me battrai contre cette société qui veut nous inculquer des choses, des valeurs que je n'accepterai pas.
Je suis d'accord avec lui sur le fait que, en fait, le nombre d'heures de travail qu'il nous donne comparé à ce qu'on a pour nous, avoir notre temps libre pour nous découvrir et nous comprendre, c'est trop peu. Tu te lèves à 8 heures, tu reviens, il est 17h, un truc comme ça, t'as des devoirs à faire, tu dois réviser, tu dois faire le ménage, aider tes parents. Ça fait que t'as pas le temps pour toi de te poser et comprendre et essayer de comprendre.
Alors, j'ai envie de rajouter un truc à propos de ce que Taïp a dit, par exemple. Quand il disait que la société, elle peut nous inculquer des choses négatives, par exemple ça... C'est le fait de se lever à 8 heures, d'aller au travail, d'avoir cette routine. Il y en a certains qui pensent que c'est normal. Or que pour d'autres personnes, cette vision-là de travailler 8h, 16h, 8h, 18h, 10h par jour, ben, pour eux, c'est pas normal. Dû au fait qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. La société leur a inculqué cela, mais ils ne l'ont pas accepté. De par leur passé, leurs amis, leur famille. Et du coup, moi, je vois ça comme ça.
Moi, je vais aller même plus loin que ça. Je vais dire que la société veut plus des travailleurs que des penseurs. Ils veulent nous faire travailler, mais pas penser. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ils veulent qu'on soit des pions, ils veulent qu'on fasse le travail, mais à côté de ça, ils veulent qu'on obéisse à tout et n'importe quoi. C'est surtout ça.
Et comment tu pourras réagir face à ça quand tu dis ils veulent pas qu'on soit des penseurs, ouais. Ils veulent qu'on
c'est
soit.
C'est surtout la société d'aujourd'hui qui est comme ça. C'est le capitalisme, la consommation, c'est l'économie basée sur l'argent, enfin la cupidité, tout ça quoi. Et tout est lié.
Moi, je suis un peu d'accord. Enfin, je suis d'accord avec Taïb sans aller dans les théories du complot, etc. Pour moi, ouais, il y a ce truc de les gens, en fait, dès qu'ils arrivent à avoir un poste ou un salaire assez bien, ils ont peur pour leur place et du coup, ils veulent pas que les autres puissent y arriver. Et on le voit de plus en plus, hein, que ce soit les politiciens avec l'enseignement, donc qui ont commencé à de plus en plus vouloir professionnaliser parce qu'il y avait un manque. Mais c'est juste parce que les gens se sont rendus compte, et il y a eu beaucoup, beaucoup plus de gens, j'ai l'impression, qui ont commencé à faire des études supérieures. Et donc, il y a eu un grand manque de professionnels. Et c'est comme les profs, par exemple. Il y a beaucoup moins de profs. On l'entend souvent qu'il y a une galère de profs, etc. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, le métier de prof a plus tous les atouts qu'il avait peut-être il y a 20 ans. Et donc, je pense que les gens s'en sont rendus compte quand ils y étaient eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce manque-là. Mais donc, tout ça, c'est une lutte sociale. Et la lutte sociale, c'est soit tout le monde, soit personne. Parce que les gens se dispersent beaucoup et se divisent beaucoup, alors qu'ils devraient être unis. On voit beaucoup de gens, les gens à l'usine ou les gens avec vraiment un salaire de très très minime galèrent beaucoup plus que d'autres, et c'est à eux qu'on va encore plus chercher des taxes, c'est à eux qu'on va chercher, c'est à eux qu'on enlève le plus alors qu'ils ont le moins, et c'est très très compliqué. Je pense que ce qui a fait rendre compte les gens, c'est que ils ont vu leurs parents galérer. Ils ont eu cette chance de ne pas spécialement galérer. Et donc, maintenant, il y a un changement qui se prépare, j'ai l'impression, parce que les gens savent là où ils sont emmenés.
Oui, qu'ils ont conscience des oppressions qu'ils peuvent subir, parce que leurs parents, parce que tu disais, la génération d'avant a subi ces oppressions-là. Et donc, du coup, ça donne une ouverture et une compréhension pour le futur ou le présent, c'est ça que tu veux dire?
Exactement. Genre, par exemple, moi, personnellement, j'ai vu mon père galérer, il est ouvrier, etc. J'ai jamais manqué de rien, mais je vois comment il a galéré et je sais qu'il aurait pu avoir des chances. On lui a dit qu'il pouvait pas les avoir. Et il ne s'est pas battu pour, parce qu'à cette époque-là, ce n'était pas
la priorité.
La priorité, ou on va dire les normes
de
la classe sociale travailleuse. Et donc, aujourd'hui, je sais que moi, j'ai plus de chances de combattre ça que mon père. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu plus la norme de pouvoir parler. Et j'ai l'impression aussi, là, on ressent... ils ressentent, quand je dis « ils », je ne sais pas trop de qui je parle, mais ils ressentent le revers de la médaille, parce que à trop donner la liberté d'expression, maintenant, on se l'est approprié et maintenant, ça leur fait peur. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de censure envers nous, parce que maintenant, on sait qu'on peut le faire et ça fait peur.
Mais je voulais juste revenir dans ce que tu disais, il y a deux, trois choses qui me faisaient tiquer. Du coup, j'entendais bien l'histoire de lutte sociale. Quand tu disais, oui, mon père, il n'avait pas droit à toutes les chances, mais est-ce que c'était pas, il n'avait pas droit à tous ses droits? Et par rapport à la génération d'avant, quand tu dis maintenant, nous, on a beaucoup moins peur d'y aller, est-ce que vous pouvez préciser et dire un peu à quoi ça fait écho? Qui, en fait?
Bah, je sais pas trop comment quels étaient les droits à cette époque-là, mais moi, enfin issu de l'immigration, je sais que on avait beaucoup moins le droit à la parole que quelqu'un d'autre, et donc les droits, enfin je sais pas si ils cherchaient vraiment à les connaître ou pas. Et ouais, enfin je pense pas que ce soit une erreur de la génération d'avant, mais je pense que c'est juste une erreur de la génération d'avant, mais de l'autre côté,
oui,
à qui on a fait croire qu'ils avaient pas le droit, qu'ils étaient là pour travailler et que c'était une chance qu'ils soient là, alors que en réalité c'est eux qui ont construit le pays, c'est eux qui ont tout fait, et on leur a fait croire que non, on leur donnait une chance de pouvoir travailler tout simplement. Donc on leur vendait du rêve pour travailler. Et voilà, c'est là où j'en veux un peu à mon identité belge, parce que moi je me considère belge. C'est là où j'en veux à ce passé belge et que je ne le comprends pas et que j'aimerais bien le comprendre. La deuxième question, c'était quoi ?
Mais je vais juste réenchaîner parce que je me suis rendu compte que ma deuxième question, enfin, c'était un peu alambiquée. Est-ce que tu peux...
Alors moi j'ai envie de venir, enfin j'ai envie d'additionner des choses à...
Ouais, ouais.
À ce que Walida a pu dire auparavant. Tout d'abord, en fait, pour moi, c'était auparavant, c'était pas plus la liberté d'expression qui était, enfin, que maintenant, genre la liberté d'expression, elle est plus là, tout ça. Moi, je pense plus qu'on frappe juste plus fort du fait qu'on ait plus d'outils que les gens d'avant. Par exemple, son père auparavant, quand on parle de droit, tout ça, ben, si je parle de ces outils-là, que là maintenant, on est plus nombreux, qu'on a cette façon de parler, cette chance de pouvoir parler bien français, tout ça, que peut-être son papa, nos papas, peut-être, n'avaient pas cette chance-là, et que maintenant, comme on sait parler, bon, on peut parler plus fort, entre guillemets. Là, à ce moment-là, là, maintenant, ils nous entendent. Ils comprennent clairement ce qu'on dit, on fera plus fort, quoi. Voilà tout.
Ok, mais je vous remercie vraiment pour ces témoignages forts. Je vous propose de faire une deuxième pause musicale. يا لالا اللي بلي يا لالا اللي ورق لي زيتو البطاطا وفابور للي لام الزينة ومرضي عوينة وفيها مهلي فلخ لالا لمبا لدر للي يا لالا اللي بلي يا لالا اللي حاطي جنابك هسك فك شوف الضيف اللي جاك طار بوك ودرك في الظلمة برق تقشعل الديرية دلمع عنقود مدلي يا لالا اللي بلي يا لالا تبقى مبحلق نزكي تزحلق تتمنى لي حب الخطر بلا ما تتشاطر شكون قال بلي سهرك المفوز لوز يا لالا اللي بلي الباب يبلي بلك المسري والمريخ الحمري بلك المشباح بلك داح يلسح الطلاق ويج ومسرك الدبليج وخفيف الكوان مزيج وقزز وزين وفضاح بلك المشباح بلك الداح والمشتري كيبري والقمر وخا القري لي حال بيض غالوح على حساب سيزو مره مره حدا لوريزو تعطر دي لوح غالوح عينيك تشوفسي السبب لي عينيك تشوفسي
عشنا بوفوق منو حجايا وكأز النوم يجيش وسط القصة كلمة يا لالالي بليل يا لالالي شكي معصب وشو القمر يلعب مع البحور مزلل يا لالالي بليل ماشي نجي متبل هادي 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 اللي مقيدو ما مخلي
لكي. Nous sommes de retour après cette courte pause musicale. On parlait juste avant de comment la société peut impacter notre identité sociale, notre identité en fait. Et vous nous avez dit aussi en prépa, lorsqu'on s'était vu, que toutes identités se valent, mais par contre vous ressentez vous socialement qu'il y a certaines identités qui ont plus de valeur que d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous ressentez ça, comment ça s'articule pour vous dans votre quotidien?
C'est-à-dire plusieurs valeurs qui, par exemple.
Wally, tu nous parlais à un moment donné en préparation du fait que tu avais l'impression, par exemple, qu'il y avait une espèce, tu parlais d'une pyramide avec une hiérarchie sociale.
Oui, mais tout en temps, je pense pas que cette pyramide sociale définit qu'il y a une identité meilleure que l'autre. Mm-hmm. Je pense quand même que l'identité, c'est d'abord un truc communautaire. Donc, par exemple, si. Si tout au-dessus de la pyramide, il y a des riches qui sont souvent entourés de leur sécurité et qui ne côtoient pas beaucoup de gens, je ne pense pas que leur identité, elle est meilleure. Parce qu'ils vivent un peu sur un nuage et ils ne vivent pas dans la communauté. Mm-hmm. Alors que les gens tout en bas, bah, ils galèrent. Peut-être qu'ils vont... j'ai oublié comment ça s'appelle, mais là où on donne la nourriture gratuitement, etc. Donc ils côtoient des gens. Et là, leur identité... leur est plus utile. Enfin, c'est la vision que j'ai.
Mmh. Mais est-ce que vous avez l'impression que, par rapport aux valeurs d'égalité, de justice sociale, qu'on est tous égaux au regard de la société?
Du coup, pour répondre à votre question, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que Walida il a dit. Pour moi, au niveau sociétaire, toutes les identités ne se valent pas. Certes, dans nos cas, oui, mais... dans la société, c'est forcément plus facile d'être un homme, plus facile d'être blanc, plus facile de venir d'un milieu social favorisé que être un peu comme nos parents. C'est-à-dire, tu viens, par exemple, ma mère, c'est une femme, elle est noire, elle est musulmane, elle porte le voile, elle a tout ce qu'il faut pour être bien en dessous de toute la hiérarchie sociale, merci. Mm-hmm. Donc, au niveau sociétaire, non, toutes les identités ne se valent pas.
Alors, pour moi, je suis pas... En fait, j'ai juste envie d'approfondir le truc. Moi, je pense que c'est plutôt les caractéristiques de l'identité qui ne se valent pas. Mais pas l'identité, à proprement parler. Mm-hmm. Du coup, comme elle a pu citer, une caractéristique, un homme noir qui, je sais pas moi, qui est gay, par exemple. Ou une femme qui a le voile, ça c'est des caractéristiques de son identité. Mmh. Voilà. Et pour moi, au vu de la société, hein, oui. Elles ne se valent pas.
Comment ça se fait qu'elles ne se valent pas?
Moi, je pense qu'il y a un aspect historique tout d'abord, dû à la colonisation, tout ça, ce rapport de force que entre guillemets les blancs ont face aux non-blancs. Voilà tout.
Je suis en accord avec ce que Ayoub il a dit. C'est de façon historique, mais aussi de façon biologique. C'est-à-dire que les gens, je sais pas comment expliquer, mais en gros, ils nous lobotomisent un peu depuis la naissance pour te dire que vu que toi t'es noir, en plus d'être tout le temps en retard, t'es moins bien que Alexandre, parce que c'est comme ça, c'est biologique, tu peux rien y faire, c'est à cause de ta mélanine. Donc, va te plaindre à tes parents, en tout cas, pour l'instant, t'auras du mal à trouver du travail.
Pour moi, ce qu'elle dit, c'est pas plutôt un aspect biologique, mais c'est la société qui instaure cela. Mm-hmm. Du coup, vu qu'il est noir, il va être en retard, alors que c'est pas trop le cas, enfin, c'est pas une généralité, quoi. Mm-hmm. Mais le fait que le blanc sera plus mis en valeur, tout ça, ça c'est une réalité aussi. Parce que comme le noir n'est pas commun, alors... oui, il n'est pas commun. Au vu de la société, c'est ça que je veux dire. Mm-hmm. Pas n'est pas comme un comme ça. Yeah.
La société va pas voir. Qu'est-ce que je veux dire? Ah non.
N'hésite pas si ça te revient. Oui, Taï.
Le problème de tout ce qu'on a cité, c'est la banalité. Il ne faut pas banaliser tout ça. Mm-hmm. Il fallait y faire barrière, parce que plus on entend ça, plus il y a des personnes qui vont se faire influencer bêtement. Et c'est ça le grand risque.
Tu as le sentiment, toi, qu'on banalise ces questions-là? Oui.
Ouais.
Les autres aussi, vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Oui.
Comment vous ressentez ça? Comment vous voyez cette banalisation? Oui.
Par exemple, dans l'industrie de tout ce qui est maquillage, je sais pas si vous avez vu le drama qui s'est passé, je pense que c'était l'année dernière ou en début d'année. Et je sais plus quelle marque ont sorti un fond de teint noir. C'est-à-dire qu'il était noir charbon. Et ils ont dit, oui, c'est pour diversifier, c'est pour les femmes noires, alors que c'est faux. C'est pas, on n'est pas noir comme ça. Et ça fait une grosse polémique, surtout avec... Il y a des gens qui disaient, qui défendaient la marque en disant, oui, mais il y a des gens qui sont noirs comme ça, alors que non. Voilà.
Est-ce que vous avez d'autres exemples, des autres, de comment cette banalisation se manifeste dans la société au quotidien?
C'est comme il y a quelques temps où, par exemple, sur les défilés de grandes marques, on ne trouvait pas de personnes noires ou de personnes grosses, comme si elles n'étaient pas dans la norme sociale et qu'elles n'avaient pas leur place dans la société, en tout cas dans ces grandes marques-là. Où, genre, tu ne peux pas être riche et pouvoir t'acheter, par exemple, du Louis Vuitton ou du Balenciaga. Tu ne peux pas être déjà, tu peux pas te prendre un exemple parce qu'il n'y a pas de personnes noires. Donc tu peux pas, parce que le principe d'un défilé, c'est quand même de voir ce que tu peux porter et t'inspirer. Et là, comment s'inspirer? Et moi, je le comprends, enfin, c'est encore une fois personnellement, je le comprends comme si les personnes noires n'avaient pas le droit, entre guillemets, et n'avaient pas la place dans ces marques-là, comme les personnes grosses.
Moi, j'ai un truc à dire. C'est comme quand, imaginons, il se passe quelque chose et tout. Je sais pas, il y a une personne qui va braquer une supérette ou il y a une personne qui va renverser quelqu'un dans la rue. Et il était sur effet de drogue. On va dire, il s'est drogué, il l'a trop conduit, il a renversé quelqu'un. Mais en fonction de la personne qui a renversé, ce qu'on va dire à la télé, ce sera différent.
Ouais,
si c'est un noir, si c'est un arabe, si c'est une personne dite non blanche, ce qu'on va dire, c'est le jeune arabe, le jeune noir, le nanana. Or que si, on va dire, c'est un blanc de souche ou un truc comme ça, là, c'est monsieur avait des problèmes dans la vie, cet individu a passé une période difficile, nanana. On va commencer en fait à raconter son vécu pour essayer d'adoucir, on va dire, le cœur des gens, voilà, d'atténuer les dégâts. Mm-hmm. Or que si c'est une personne, on va dire, racisée, du coup, en fait, on va pas s'arrêter à son histoire, on va juste s'arrêter à ce qu'on voit.
Oui. Donc, je dis qu'il y a un traitement médiatique qui est complètement différent.
En fonction de qui on parle. Quand il y a les attentats et tout, la chose qu'on va le plus dire, moi, je trouve qu'il n'a aucune importance, c'est la religion. Genre, on va directement commencer à dire, oui, le terroriste État islamique ou un truc comme ça. Or que si on va maintenant interroger un musulman et qu'on lui dit ce terroriste État islamique, le musulman ne va pas dire qu'il est musulman. Mm-hmm. Parce que dans sa religion à lui, on ne lui a pas inculqué d'être terroriste. Mm-hmm. Mais, je ne sais pas comment expliquer. En fait, quelqu'un d'autre peut expliquer.
Non, je comprends ce que tu dis. Ben, tout le monde comprend ce que veut dire Fatou.
Mm-hmm. Ouais. C'est qu'il manipule les propos, quoi.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et comment vous...
ça les arrange, moi, je dirais.
Vous disiez même, lors des attentats, qu'un même fait qui est d'office qualifié de terrorisme, même avant que ce soit revendiqué, si c'était... commis par une personne non blanche, alors que d'autres faits aussi violents commis par des personnes blanches dans d'autres lieux n'étaient pas directement qualifiés de terrorisme et avaient une autre qualification médiatique c'était un drame ou même peut-être un massacre, mais on n'utilisait pas le terme terroriste, on n'utilisait que en ciblant certaines catégories de la population, des personnes non blanches et des personnes en plus, si c'était une personne musulmane, là c'était le jackpot, même si il n'y avait pas encore de revendication État islamique ou autre.
Ouais, moi, enfin, quand on regarde les informations et tout, genre, si on va dire il y a un attentat et tout, et que la personne, elle est d'origine ceci ou cela, directement dans les infos, si tu vas entendre, c'est, on pense que c'est un truc terroriste, État islamique, une enquête est en cours. Or que si justement la personne n'est pas n'est pas racisé ou un truc comme ça, c'est on vous informera plus en détail, une enquête est en cours pour savoir que, or que dans l'autre cas, enfin, il va directement donner son avis sur la situation, directement utiliser les grands mots.
Mm-hmm. Et des hypothèses qui sont déjà émises, quoi.
Voilà, mais inversement, là, on pèse ses mots, on essaie de maquiller le truc, quoi. Mm-hmm.
Ça me fait aussi penser au fait que, du coup, les médias dans cette histoire, beaucoup de personnes regardent les médias. Et moi, ces derniers temps, j'ai une confiance zéro envers les médias parce que, en fait, la règle de ne pas prendre parti, elle n'existe pas. Enfin, tout simplement, en prenant l'exemple de ce qui se passe en Palestine, le 7 octobre, c'est du terrorisme, mais tout ce qui est après ou avant, c'est pas du terrorisme. Donc je me demande même, est-ce que le mot terrorisme n'a pas été associé aux Arabes et à tout ce qui leur ressemble. Mm-hmm. Je me dis aussi, par exemple, là, ces derniers jours, il y a eu de grosses attaques où il y a un hôpital qui a été bombardé, des gens qui ont été brûlés vifs. Sur les médias, on a pu voir qu'ils en ont parlé 14 secondes, alors qu'ils ont parlé 1 minute 40 de l'autre côté, de ce qu'ils ont pu subir. Donc sur un même journal télévisé, mm-hmm. on minimise beaucoup, Il y a aussi cette forme de déshumanisation où on n'appelle plus les gens par leur nom, on dit pas leur âge, on dit pas que c'est des enfants, on dit juste eux là et point. Alors que de l'autre côté, on donne des prénoms, des âges, les métiers, les hobbies. Enfin, en fait, il y a vraiment ce truc de, il faut se remettre en question dans mode, est-ce que c'est pas à nous de créer nos propres médias pour s'informer, parce que en réalité les médias qui sont censés nous informer, ils ne nous informent pas parce qu'ils ont un parti pris. Mais donc, il y a aussi ce truc de... Il y a souvent des gens aussi racisés à la télé, etc. Ouais. Comment ces gens-là ont pu oublier d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils ont pu subir, le racisme, les discriminations. Et donc, ça fait poser beaucoup de questions sur son identité et sur son avenir ici, dans ce pays ou même en Europe. Mm-hmm.
Est-ce que tu penses que c'est forcément le cas ? Je pose des questions aux autres aussi. Je parlais des personnes racisées qui travaillent peut-être dans les médias. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils sont parfois en lutte aussi ? Peut-être identitaires
Je pense que c'est des personnes qui ont été tellement habituées à... Là, j'ai un prénom en tête, c'est Adia Labib. Elle a été ministre des Affaires étrangères pendant beaucoup plus que 6 ans, si je ne me trompe pas. Et elle n'a rien foutu, alors qu'elle... Elle est censée ressentir ce que nous, on a ressenti. C'est quand même quelqu'un qui a une tête de quelqu'un de racisé. Elle a été sûrement discriminée. Elle l'utilise souvent à son avantage, mais elle l'utilise contre les gens qui ont pas pu s'en sortir ou qui essayent de s'en sortir. Donc, il y a cette question de à qui faire confiance. Est-ce que même entre nous, est-ce que c'est la quête de celui qui va mieux le réussir et qui aura le plus d'argent où ça s'arrête ?
Alors moi, j'ai envie de rejoindre quelque chose que Walid a dit. Pour moi, en fait, il y en a aussi des personnes qui sont racisées, tout ça, qui s'approprient la culture des autres, qui se pensent, en fait, comme ils travaillent qu'avec des blancs, tout ça, ils oublient leur passé, entre guillemets. Qu'ils oublient qu'ils sont noirs, qu'ils ont été racisés, qu'ils ont été ci, ça. Et que voilà, quoi. En fait, maintenant, ils se prennent pour des blancs, entre guillemets, alors qu'ils le sont pas. Vous voyez, genre ils oublient tout leur passé, tout ce qu'il y a avant, c'est basta. Là, maintenant, on regarde que devant nous. L'argent qu'il y a devant moi, je le veux, donc je l'aurai.
C'est ce que tu perçois.
Oui, c'est ce que je perçois. Et j'ai aussi envie de rajouter un truc, que les médias, en fait, c'est vraiment un facteur premier sur les caractéristiques de notre identité. Ce qu'on voit, ce qu'on peut percevoir, ce qu'on peut comprendre des médias. Et comme l'a dit Walid, ben, les médias de nos jours, comment on pourrait les faire confiance et pourquoi ne pas créer nos médias, entre guillemets.
Mais du coup, vous avez aussi, pour revenir aussi un peu sur ce que vous avez fait, donc, parce que vous avez fait des recherches aussi du coup, sur les monuments à Etterbeek, les monuments coloniaux. Et qu'est-ce que vous en avez, avec quoi vous en êtes ressorti en fait de ces visites décoloniales que vous avez faites sur Etterbeek?
C'est que, en fait, il y a beaucoup de rues, voilà, beaucoup de rues avec ben, des passés coloniaux et des choses où en fait on y voit juste des atrocités. Même par exemple, même au parc cinquantenaire, ben, je viens d'apprendre qu'en fait, ben, là où Walid avait fait sa présentation, ben, c'est juste un endroit où on y voyait clairement en fait comment c'était passé les moments coloniaux en Afrique. Et je trouve vraiment ça là aberrant en fait qu'il reste encore autant de choses, même si je comprends aussi que c'est l'histoire de la Belgique en soi.
Oui, Marie.
Du coup, je trouve ça également aberrant sur le fait que ils avaient promis de contextualiser les noms de rues, par exemple le nom de rue Baron Lambert, ce genre de choses, alors que au final ils les ont laissés comme ça. Ils ont même mis des petits mots en dessous pour dire oui, a lutté contre la, a été pour la lutte anti-esclavagiste, mais ils disent pas que c'était la lutte anti-esclavagiste envers les Arabes, qu'il a fait des atrocités pendant l'esclavage, que lui, pendant que lui menait sa petite vie tranquille chez lui avec sa femme et ses enfants, et ben bah, il a orchestré des meurtres, qu'il a coupé des mains à des innocents, enfin qu'il a demandé à des gens de couper des mains à des innocents. Je trouve que les promesses ne sont pas tenues et je trouve ça triste.
Oui.
Moi, je voulais en venir encore une fois avec ce que Maria m'a pu dire. Ben, je comprends pas comment on peut concevoir ça, de ne pas mettre, de pas contextualiser tout ça, d'avoir un réel aspect historique et de ne pas avoir que le point de vue des gagnants, entre guillemets. Parce que là, pour moi, je trouve ça grave de ne pas contextualiser et de façon neutre, de montrer la réalité des choses. On honore en mettant des hommes qui ont fait des atrocités à des noms de rue. Or que pour moi, avoir son nom approprié à une rue, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quand t'as fait quelque chose de bien, pas quelque chose de mal. Ouais. Là, il y en a, ils ont fait des atrocités, mais comme c'est les gagnants, entre guillemets, comme ils ont fait certaines choses qui ont pu, par rapport à l'esclavagisme, comme elle a pu dire avec les Arabes, tout ça, ben, ils ont été honorés comme ça. Et pour la société, c'est normal.
J'ai pas l'impression que quelqu'un a du coup contextualisé pourquoi on parle de tout ça. C'est parce que dans le cadre du cours de sciences sociales, on a fait une visite décoloniale d'Etterbeek et sur ce que disait Mariam, en fait, c'est parce que le bourgmestre avait entre guillemets promis avant les élections de juin de clarifier un peu tous les noms problématiques et toutes les personnes qui ont eu un impact sur la colonisation. Et nous, notre but, c'était aussi de déjà voir qui étaient tous ces gens, parce que si on marchait dans la rue habituellement, on s'en serait pas rendu compte, mais aussi voir quel impact ils avaient eu sur la colonisation, mais aussi voir s'il y avait du coup les clarifications, parce que le bourgmestre disait qu'il allait avoir des plaques explicatives. Mais on a pu observer qu'il n'y avait rien du tout. Et donc, voilà. C'était juste pour contextualiser.
Merci. Fatou, tu voulais réagir?
Ouais, mais maintenant, je voulais... Enfin, genre, ce que je voulais dire, c'est que genre, la contextualisation, bah, il fallait le faire. C'est comme moi, puisque moi, j'ai fait sur une statue. Et bah, du coup, quand j'ai vu la statue, genre juste la photo, pour moi, la statue, elle avait... Enfin, c'était une statue, quoi. Il n'y avait aucun problème et tout. C'est quand j'ai pris le temps de faire des recherches que derrière... En fait, j'ai eu une autre vision de la statue. Je la voyais différemment. Mais au premier abord, avant, du coup, ce qu'on a fait avec la prof, je suis passée devant la statue. Pour moi, il n'y avait
rien de spécial.
Enfin, c'était juste une statue, quoi. Mm-hmm. C'est pour ça que je parle du principe que, en fait, il faut contextualiser. Mais moi, je parle pas du principe qu'il faut déboulonner les choses. Parce que, en fait, quand on déboulonne quelque chose, on l'enlève. Et on l'enlève de l'histoire, on enlève sa trace, en fait. Mm-hmm. Pas déboulonner, mais...
Garder une trace,
il faut garder une trace parce que ça s'est passé, faut l'assumer, faut en prendre conscience, mais il faut l'expliquer en fait pour que les gens y comprennent. Voilà.
Oui, Ayou.
Alors, moi j'ai encore un truc à dire, c'est à propos d'une statue qui ressemblait énormément, en fait, qui avait des caractéristiques avec une grande bouche, un grand nez, des choses vraiment qu'on ne devrait pas avoir ça. Enfin, en fait, ça montre réellement que. Quand cette statue a été créée, ben, la vision des gens à propos des Noirs, c'était très grave. Genre, j'en suis quasi sûr que cet homme ne ressemblait pas à ça, à une grande bouche, un nez bien rentré, bien... excusez-moi du terme, mais qui ressemblait énormément à un animal. Vous voyez ? Mm-hmm. Et je trouve ça extrêmement scandaleux d'avoir ça de nos jours. Et pour moi, c'est un truc qui doit être pas détruit, mais reconstruit. Ouais. Pour que ce soit adapté à de nos jours, quoi. Mm-hmm. Parce qu'en 2024, avoir une statue qui ressemble énormément à un animal pour montrer que c'est un noir, ben pour moi, c'est illogique. C'est impossible, c'est invivable. Ouais. Ça n'a aucun sens.
Qu'est-ce que vous pensez tout ça ? Est-ce que vous pensez que c'est une responsabilité, c'est d'ordre de responsabilité individuelle, de responsabilité collective ?
Pour moi, c'est collectif. Hein.
C'est collectif ?
Oui.
Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous ? Vous avez déjà commencé à répondre un peu en partie, hein, par rapport à cette histoire coloniale, par rapport à ces discriminations qui sont encore vécues aujourd'hui, à toutes les conséquences qui découlent encore de cette époque coloniale. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Enfin, par rapport à la commune d'Etterbeek ou...
Bah, de manière générale.
Enfin, moi, ce que j'aurais dit par rapport déjà à la commune, ben, par rapport à ce qui concerne les rues, il faudrait déjà en parler à la population, que le bourgmestre en parle, de clairement ce que les rues en disent et qui sont les personnes, parce qu'en fait, je pense que personne ne le sait, les gens habitent juste pour habiter, et ce serait important qu'ils puissent aussi leur donner leur avis par rapport au fait de si changer ou non les rues, parce que, bon, honnêtement, je trouve ça aussi assez problématique, quoi. Mm-hmm.
Et par rapport aux discriminations, donc vous avez parlé... Oui, Ayou, tu voulais
réagir. Ouais, comme a dit Emile, pour moi, c'est très important de sensibiliser les habitants autour, dans la communauté d'Etterbeek, dans la communauté Etterbeek, pardon. Mm-hmm. Et voilà.
Merci. Oui, Jazoul.
Parce que moi, par exemple, avant notre visite des coloniales, je ne connaissais absolument rien. Genre, pour moi, c'était des rues banales. Quand je voyais des noms comme Baron Lambert... Ça m'était banal. Mmh. Et une fois qu'on a fait notre visite, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses atroces derrière tout ça, que je ne m'étais pas rendu compte avant. Ouais. Et donc, encore une fois, il faut sensibiliser. Il faut donner la raison à la population.
Ouais. Donc, continuer à sensibiliser, à transmettre. Et parce que tu parlais d'un truc intéressant, Lisa, quand tu disais... Par exemple, pour moi, ce que tu disais, c'est une manière de lutter, c'est un moyen de lutte sociale, hein, de créer ses propres médias. Est-ce que vous auriez d'autres exemples comme ça de moyens de lutte sociale pour lutter contre les discriminations que continuent encore à vivre aujourd'hui ?
Il y a juste la sensibilisation, je vais
chercher. Sensibilisation.
Ouais, et apprendre... Ah oui. Apprendre... En fait, il faut parler. Enfin, c'est juste ça, il faut informer, parler, expliquer. Mm-hmm. Mais genre... À part ça, nous, entre nous, enfin, on peut pas faire grand chose à part parler, parce que tu vas pas aller au coin de la rue, enlever le nom de la rue et coller celle que tu as envie. Mm-hmm. Tu vas pas prendre une statue, la déboulonner ou alors mettre un pouvoir. Ça marche pas comme ça. Mm-hmm. Ça, c'est au pouvoir de l'État. Nous, le pouvoir, c'est la parole.
La parole.
Mm-hmm. Moi, je pense que c'est aussi un peu les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et tout, comme. On ne peut pas se le mentir, on est une génération qui est souvent sur leur téléphone, qui check souvent les médias. Du coup, je me dis, ouais, on pourrait peut-être créer un média, créer un compte où on raconte un peu tout ce qui va pas et tout ce qu'on vit dans le quotidien.
Moi, au contraire, je pense que... Enfin, certes, c'est utile d'en parler sur les réseaux sociaux, ça aide beaucoup d'un point de vue de faire émanciper la nouvelle ou le problème. Sauf que pour moi, c'est vraiment genre prendre la rue qui fait peur. Donc la rue, finalement, elle nous appartient. C'est nous qui la finançons, c'est nous qui la construisons. Donc pour moi, il ne faut vraiment pas avoir peur de prendre la rue et de manifester, de proclamer, d'interpeller aussi. Parce que quand, par exemple, une personne interpelle, par exemple, dans ce contexte aussi, le bourgmestre d'Etterbeek, peut-être que ça ne va rien faire. 2, 3, 4, 5, 6, plus ça augmente, plus ça sera une pression sur son crâne et plus il bougera et il changera les choses. Et donc, c'est vraiment aller en face à face, que ce soit en prenant la rue ou en interpellant et en discutant.
Alors, un petit mot de la fin. Merci en tout cas à tous et à toutes pour vos réactions. Est-ce qu'il y aura encore un petit mot de la fin, un petit mot d'espoir, un petit mot de...
Qu'il faut continuer à courir et qu'au fond du tunnel, il y a toujours la lumière.
Merci.
Montre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant, ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés, ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompiers, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix. Votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas. On le sait parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande hypocrite, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité. S'acharne à discriminer les mêmes minorités face aux mêmes électeurs. Les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Respectez loin des artistes transparents. J'écris ce texte comme un miroir. Que la France s'y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection. Comprends que je n'attends plus qu'elle-même.